On va lire dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Et au verset 7. En fait, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui leur annonce qu'il va partir. Et aujourd'hui, hein, beaucoup de gens se rappellent de Pentecôte, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, tout ça. Et c'est vrai, et c'est bien de s'en rappeler. Mais la pensée que vraiment l'Esprit a mise sur mon cœur pour de vous partager, eh bien, elle part de ce verset qui sera aussi le titre de mon partage. Jean, chapitre 16, et au verset 7, il est dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Et le monde se trompe au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous n'avez pas la force de l'entendre maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité toute entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Alors quelques disciples de Jésus se dirent entre eux, il nous a dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Il nous a aussi dit, je m'en vais auprès du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Et les disciples dirent encore, quand Jésus dit dans peu de temps, qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne comprenons pas de quoi il parle. Jésus le savait, et les disciples vinrent lui poser des questions, et il dit, vous cherchez entre vous le sens de ces paroles. Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité, vous pleurerez, serez dans le deuil, le monde lui sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra joie. Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie, parce qu'elle a mis un enfant au monde. Et vous aussi maintenant vous êtes triste, mais je vous reverrai. Et votre cœur sera dans la joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne poserez plus de questions. Je vous le dis en vérité, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera complète. Donc, la lecture un petit peu longue, mais c'est tout un propos de Jésus qui contient beaucoup de choses. Mais particulièrement, mon titre ou ma réflexion aujourd'hui se base sur le verset 7. « Il vaut mieux pour vous que je parte » ou bien « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Donc, c'est une parole que Jésus a laissée à ses disciples et finalement que Jésus nous laisse à nous. « Il nous est avantageux qu'il soit parti ». Et je ne sais pas pour vous, mais souvent les gens, je les entendais dire « Mais si seulement j'avais pu vivre... » au temps de Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus à ses disciples. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à ça et qu'on voit pourquoi Jésus disait ça, ce qu'on doit y comprendre. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est une parole étonnante. Les gens étaient heureux d'être avec Jésus. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens, et moi-même je l'ai déjà dit, je dis, mais si j'avais pu être avec Jésus et l'écouter, et puis manger de ce pain qui a été multiplié, et voir ces miracles que Jésus faisait, ça aurait été tellement waouh d'avoir été là. Mais pourtant, Jésus dit, il vaut mieux que je parte. Et à ses disciples qui étaient tristes, d'ailleurs, il leur dit, mais vous êtes tristes maintenant, mais bientôt votre joie sera parfaite, elle sera complète, parce qu'il vaut mieux pour vous que je parte. Et oui, si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Il nous est avantageux qu'il soit parti. Et donc, même si des fois, on peut être un petit peu dans une espèce de nostalgie, de dire « Ah, ça aurait été mieux au temps de Jésus » et tout ça, c'est pas ce que Dieu dit et c'est pas ce que Jésus dit. Il vaut mieux être là maintenant. Et puis, vous êtes là maintenant parce que c'est le meilleur moment pour vous, à cause de ce que Dieu vous a donné, à cause de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et évidemment, une première raison pour laquelle il est avantageux que Jésus soit parti, eh bien, il la donne clairement dans ce passage. Il dit, si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, pour que le Saint-Esprit soit libéré, soit répandu, il fallait que Jésus parte. Est-ce qu'il n'est pas avantageux d'avoir le Saint-Esprit? Alors vous pourriez me dire, je ne suis pas trop, je n'ai pas été là pour tester la différence avant et après. Mais waouh, quel avantage que d'avoir le Saint-Esprit! Et ces avantages sont tellement, tellement vastes. Jésus, là, volontairement dit, le Consolateur ne viendra pas. Donc, c'est vrai, le Saint-Esprit vient nous consoler. Il vient nous remettre du baume au cœur. Il vient nous donner la paix, la confiance, quand parfois nous pouvons être tristes, ou parfois nous sentir seuls ou perdus, ou même parfois être dans cette réflexion, dire « Mais pourquoi je ne suis pas avec Jésus ?» Ou plus que cela, ce qui nous concerne aujourd'hui, alors que le retour de Jésus est proche, quand souvent nous sommes là, dire « Mais Seigneur, tu viens quand ?» Ou bien comme Paul, où on peut dire, mais quand est-ce que je serai libéré de ce corps? Et Paul disait, c'est le corps de mort, il sait très bien de quoi il parle. Ce n'est pas spécialement le corps physique qui est trop gênant, même s'il nous limite beaucoup, mais c'est surtout la chair, avec laquelle si souvent nous devons encore nous battre, et la chair m'énerve tellement, vraiment. Je la hais. Il y a quelques années déjà, et récemment, il a republié une réflexion sur ce sujet, qui avait dit « Votre plus grand ennemi, c'est pas le diable, c'est évidemment pas les gens qui sont autour de vous, mais votre plus grand ennemi, c'est la chair. C'est la pire des choses que nous ayons à gérer, la chair. D'autant plus que ça fait partie de nous-mêmes. C'est encore, c'était extérieur, on pourrait trouver un moyen ou un autre, soit de l'éviter, soit d'en finir une bonne fois pour toutes, mais bon, c'est pas mon sujet aujourd'hui, hein, mais ça nous fait du bien. Mais le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là, puisque nous parlons de la chair, pour nous conforter dans la grâce de Dieu, qui fait que même si par moments, la chair encore a ses faiblesses, ses fait des siennes, et quelquefois encore, nous cédons à certaines tentations ou certaines actions de notre chair, mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que ce n'est pas ça notre vraie nature profonde. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que notre esprit était régénéré, que nous sommes fils et filles de Dieu, que Christ a vaincu le monde, et que en lui et avec lui, nous aussi, nous pouvons vaincre non seulement le monde extérieur, ce qui nous entoure, les puissances et tout ce qui opère autour de nous, mais nous pouvons aussi vaincre nous-mêmes. Et combien nous avons besoin de nous vaincre nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, de prendre le dessus et de dépasser ce qui en nous est encore rebelle ou contraire à ce que Dieu dit à notre sujet. De dépasser ce qui nous retient, ce qui nous limite, qui la plupart du temps ne vient même pas des circonstances extérieures, ne vient même pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, mais qui vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que vous savez, le monde extérieur peut être ce qu'il veut. Et nous avons passé plusieurs semaines sur comment va ton cœur. Et on a réalisé que ce qui fait toute la différence, c'est ce qui se passe en nous. Et les circonstances peuvent être exactement les mêmes, mais c'est de ce qui se passe en nous que va dépendre notre réaction, notre action, notre avenir et notre avancée ou pas. Mais donc le Saint-Esprit a été donné. Il fallait que Jésus parte pour que le Consolateur vienne vers nous, pour que nous recevions le Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et il y a tant de choses que nous pouvons en voir découler. Acte 2, 8. Qui cite cette parole de Jésus, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Une puissance, une capacité, une autorité. Donc ce premier point, pourquoi il est avantageux que Jésus soit parti, eh bien c'est parce que le Saint-Esprit devait être répandu. Deuxième raison qui est en rapport évidemment avec ça, c'est que le ministère de Jésus soit élargi. Et je vais vous aborder ce point sous deux angles. Le premier angle, c'est que Jésus, lui, n'était qu'à un endroit à la fois. Même pendant son ministère terrestre, s'il était à Cana, il n'était pas pendant ce temps à Jérusalem. S'il était à Jérusalem, il n'était pas ailleurs. S'il était dans la maison d'une personne, il n'était pas à l'autre bout de la ville. Il n'était qu'à un endroit. Donc les gens le suivaient pour être là où ça se passait. Les gens essayaient de suivre Jésus pour être là où Jésus était, donc là où était la puissance de Dieu, parce que l'Écriture dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Mais lui n'était qu'à un endroit avec son corps, corporellement sur la terre. Mais le fait qu'il soit parti nous est avantageux, parce que maintenant, Christ est présent toujours et partout par son esprit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être à un endroit où Jésus serait pour pouvoir le rencontrer, espérer le toucher, le connaître, expérimenter sa présence et sa gloire. Mais aujourd'hui, toujours et partout, pendant qu'on est ici, il y a des millions de gens tout autour de la terre qui sont en train d'expérimenter la présence de Dieu, ou le Saint-Esprit en train de se révéler à eux, autant et voire plus, ou de la même façon, comme Dieu le dispose, que nous le vivons ici maintenant. Waouh ! Quel avantage ! Il vous est avantageux que je sois parti, nous dit le Seigneur et nous rappelle le Seigneur, parce que mon esprit n'aurait pas pu venir et parce que mon ministère s'élargit. Partout maintenant, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, nous pouvons vivre la présence de Dieu, la puissance de l'Esprit, le miracle. Et comme nous l'avons lu dans toute cette écriture, j'y reviendrai pas à chaque fois, mais vous pourrez relire pour vous Jean chapitre 16 que nous avons regardé. Jésus dit à un moment, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, ou bien ce qui est au Père, parce que ce qui est au Père est à moi, et il vous l'apportera, il vous le révélera, il vous fera connaître les choses à venir. Et il dit aussi, il vous montrera ma gloire. Waouh, on peut voir, vivre, expérimenter la gloire de Jésus, toujours et partout, parce que le Saint-Esprit était répandu. Vous savez, les apôtres rendent témoignage dans le premier chapitre de Jean, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, mais ils ne l'ont vu qu'à un endroit à la fois, parce qu'ils ont vu Jésus avec leurs yeux. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous montre la gloire de Dieu, partout. Là où nous sommes, là où l'Esprit est, la gloire de Dieu peut et doit être révélée. Waouh ! Qu'il est avantageux qu'il soit parti. Et le deuxième volet, si on veut, le deuxième aspect, c'est que si Jésus n'était pas parti, nous serions juste derrière lui à le regarder et à attendre qu'il fasse quelque chose. De la même manière que pendant une bonne partie du ministère de Jésus, voire même quasiment jusqu'au bout, les disciples s'appuyaient essentiellement sur Jésus, et c'est essentiellement Jésus qui faisait les choses. Mais avant de partir, il leur a laissé des ordres. Il a dit, maintenant, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, vous, allez. Et l'Écriture nous dit à la fin de l'Évangile que le Saint-Esprit travaillait avec eux en confirmant la parole par des signes, par les miracles, pardon, qui l'accompagnaient. Donc, il est avantageux que Jésus soit parti parce que si Jésus n'était pas parti, son ministère n'aurait pas été élargi d'une part, et c'est le plus important, par l'action du Saint-Esprit, mais d'autre part aussi par le fait que nous nous mettions en action, nous qui sommes ses disciples. Il fallait que Jésus parte pour que son corps soit révélé au-delà de son corps physique qu'il a habité pendant peu de temps, que nous soyons maintenant dans cette réalité du corps de Christ, l'Église, composé de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec lui. Donc il est maintenant partout par son esprit, par sa puissance, et en fait il est partout par son corps dont vous et moi nous sommes membres et nous faisons partie. Et il fallait qu'il soit parti pour que les disciples se mettent à l'œuvre et pour que nous nous mettions à l'œuvre. Que nous continuions son ministère, que nous manifestions pardon, le royaume de Dieu et que nous nous développions dans ce que nous avons reçu. Vous savez, aussi longtemps que vous êtes en présence ou sous l'aile d'un bon maître, eh bien, vous avez tendance à faire certaines petites choses, mais vous n'exprimez pas encore pleinement votre potentiel. Ou encore, vous n'allez pas au bout des choses parce que vous vous dites, bon, le maître est toujours là, donc je vais faire quelques petites tâches secondaires, et c'est précieux, c'est excellent. Et un bon exemple pour ça, c'est tout simplement l'apprentissage. Vous savez, des jeunes gens qui sont auprès d'un maître, ça s'appelle comme ça, hein, juste pas d'apprentissage, et qui fait les choses et puis qui progressivement enseigne à son élève comment faire. Et il va essayer de lui transmettre un savoir-faire, etc. Mais aussi longtemps que l'apprenti est dans, si on prend un apprenti boulanger, je pense qu'aussi longtemps qu'il est dans les cuisines et dans l'atelier de son maître boulanger, eh bien il va faire certaines choses, mais il ne va pas pleinement se mettre à la tâche avant soit de se trouver un beau matin à ce que son maître dise bah, « aujourd'hui c'est toi et tu vas gérer la boulangerie pour t'entraîner et pour y arriver » ou jusqu'au jour même où il se trouve lui-même dans son activité qu'il faut qu'il fasse le travail et qu'il accomplisse quelque chose. Pour ceux qui ont passé leur permis de conduire et pour ceux qui le passeront, vous verrez ce que ça donne. Aussi longtemps que vous avez le moniteur à côté, quelquefois il nous embête un petit peu ce moniteur-là. Mais vous conduisez, vous savez conduire d'une certaine manière. Mais le premier jour où vous vous mettez tout seul au volant, c'est encore autre chose. C'est comme si quelque part vous vous sentez un petit peu tiré. Vous êtes obligé de sortir un petit peu de votre sécurité apparente que vous aviez. Mais ça vous pousse à faire plus attention à ce que vous faites et à prendre un risque quelque part. Et c'est ce qui vous pousse à devenir meilleur. Et à un moment, au lieu de faire juste la ronde dans les quelques kilomètres autour de chez vous, vous allez peut-être être amené à devoir faire un trajet. Et au début, vous n'êtes peut-être pas trop sécurisé avec ça, vous faites peut-être des idées, mais c'est ce qui vous pousse à exceller. Et c'est en étant parfois tiraillé qu'on devient meilleur à ce qu'on fait. Mais aussi longtemps qu'on a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, même si on est totalement d'accord et qu'on est même dans l'équipe, eh bien, on reste limité quelque part. Et il y a un moment où il est avantageux que le maître parte, parce que vous êtes prêt, mais vous ne le savez parfois pas encore. Et aussi longtemps que vous opérez, comme on l'a pu vivre à plusieurs périodes, et c'est une réalité aussi dans le service de Dieu et dans le ministère, il y a des périodes où vous vivez, entre guillemets, sous l'aile d'un leader ou d'un ministère, aussi longtemps. Et vous pouvez déjà travailler, opérer, vous voyez que ça va bien et que vous faites des choses, mais il y a un moment où soit ce leader doit faire autre chose et vous poursuivez, ou soit c'est vous qui êtes amené à passer dans une autre phase, et là vous devez vous-même, entre guillemets, venir sur le devant de la scène. Et il est avantageux que Jésus soit parti parce qu'il ne voulait pas être lui particulièrement le centre de toutes les attentions, mais il voulait que par son esprit qu'il nous a donné, ce soit maintenant tout son corps, toute l'Église qui puisse être sur le devant, que ses 12 disciples qu'il a formés et les disciples qui allaient naître de ses disciples puissent continuer l'œuvre et maintenant poursuivre ce travail et manifester la présence de Dieu. Et Jésus nous a tout enseigné. Luc 6, 40, il dit « Le disciple accompli sera comme son maître. » Il a tout enseigné. Il y a tout ce qu'il faut dans la parole. Et même si ici, Jésus dit « Mais il y a des choses que je devrais vous dire, mais que vous ne pouvez pas encore supporter. » Ce n'est pas qu'il garde des choses secrètes cachées quelque part. Il dit « Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous enseignera toutes choses. » Vous enseignera toutes choses. Donc, combien il est avantageux? Je ne suis pas en train de minimiser le ministère de Jésus sur la terre, comprenez-moi très bien. Mais je veux que nous réalisions quel avantage nous avons à vivre aujourd'hui au bénéfice de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, et qu'est-ce que Christ a voulu dire et qu'est-ce qu'il a ouvert pour nous en nous laissant. Pourquoi il n'est pas resté sur la terre? Parce qu'il est avantageux qu'il soit parti, pour que l'Esprit soit répandu, pour que son ministère s'élargisse à travers l'action du Saint-Esprit, mais à travers aussi les disciples que nous sommes qui allaient se mettre eux-mêmes au travail, et il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous enseigner tout ce que lui n'a pas pu enseigner dans tous les détails, mais que l'Esprit nous sert à chacun au temps convenable, dans la circonstance convenable, pour nous amener dans l'accomplissement de ce pourquoi Dieu nous a amenés à l'existence. Et Jésus ne nous a pas délaissés, ne nous a pas abandonnés. Bien au contraire, il nous a laissé beaucoup plus que ce qu'avaient les disciples, que ce qu'avaient les contemporains de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc Jésus nous a laissé pour que nous puissions nous exprimer, pour que nous puissions nous développer. Non pas que nous n'aurions pas pu le faire en sa présence, mais qu'il savait qu'aussi longtemps que nous pouvions l'éviter, eh bien nous allons éviter. Et c'est tellement vrai. Tant que vous pouvez éviter de faire quelque chose par vous-même, vous allez éviter de le faire. C'est qu'un beau jour où vous n'avez pas le choix que de faire autrement, et il y aurait beaucoup d'exemples, je crois, dans la vie de plusieurs d'entre nous, c'est que le jour où on ne peut plus faire autrement, qu'on finit par faire la chose et se rendre compte qu'on était capable de la faire, mais jusqu'à présent, on l'avait contournée comme on pouvait. On est fait comme ça. Et donc, Jésus s'est dit, il faut que je les laisse, parce que sinon, ils ne vont jamais s'y mettre. Mais tout en nous laissant, il ne nous a pas laissés. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Et sa puissance. Et un autre aspect dans cette réflexion que je vais vous partager aujourd'hui, quand Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », pourquoi ? Parce que en partant, Jésus nous a ouvert la voie, certains l'ont prié tout à l'heure, et nous a donné la possibilité de passer du terrestre au céleste. Si Jésus était resté avec nous, il aurait pu, il est éternel, et il aurait très bien pu avoir un corps qui se renouvelle sans cesse, tout est possible à Dieu. Mais nous n'aurions jamais pu goûter et entrer dans le domaine du céleste. L'Écriture nous dit, il est dit que Dieu avait formé le dessein de rassembler toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et Hébreux 10, verset 20, voilà, il est fait mention de la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et en fait, Jésus, en mourant, en montant auprès du Père, et ensuite, évidemment, il est ressuscité, et avec son corps glorifié, il est reparti à la droite du Père. Mais Jésus a inauguré cette route nouvelle et vivante pour nous, à travers sa chair. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, en tant qu'homme, ayant revêtu une chair, un corps, a ouvert une nouvelle route pour que nous puissions l'emprunter aussi après lui. Et cette route-là, elle est faite pour que nous l'empruntions. Mais il fallait qu'il inaugure cette voie. Et si Jésus était resté sur cette terre, si Jésus n'était pas parti, cette voie n'aurait jamais été inaugurée. C'est-à-dire que nous n'aurions pas, comme il est dit plus loin, libre accès dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Hébreux 8, versets 4 à 6, exprime encore cette réalité. Et regardez ce qu'il est dit. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Alors, sans rentrer dans un grand commentaire biblique, en fait, Jésus n'aurait pas pu être sacrificateur, parce que pour être sacrificateur, il fallait venir de la maison d'Aaron et d'une autre descendance. Hein, il est de la descendance royale, mais pas des sacrificateurs. Donc, il n'aurait même pas été sacrificateur selon la loi, selon l'ordre terrestre. Mais ce n'était pas l'objectif de Jésus. Hein, et on voit bien, à travers toute l'Écriture, que la loi et les sacrificateurs et les sacrifices, tout cela était une image des choses à venir. Donc, s'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur. Et c'est normal, puisque selon la loi, il n'aurait pas été qualifié. D'accord ? La suite. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Remarquez une chose ici. Il célèbre un culte. Qui ça, il ? Les sacrificateurs. Et ils font ce que Dieu leur a dit. Ils font exactement selon les ordres. Mais remarquez ce qu'il a dit. Image et ombre des choses célestes. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Et en fait, Jésus, en venant, mais surtout en partant, a fait en sorte que nous passions de l'image et ombre des choses célestes à la réalité des choses célestes par la route nouvelle et vivante inaugurée par lui-même. C'est fini l'image et ombre. Nous sommes dans la réalité, nous sommes assis dans les réalités célestes. Donc s'il vous plaît, Église de Jésus-Christ, s'il vous plaît, mes bien-aimés, ne restons pas coincés dans image et ombre, comme si Jésus n'était pas parti. Si Jésus n'était pas parti, certes, nous serions encore coincés à l'image et l'ombre des choses à venir. Mais à un moment donné, l'image et l'ombre est supposée laisser la place au vrai. Et si vous faites un petit peu d'herméneutique, n'est-ce pas, étudiant de deuxième année de l'Institut Timothée, si vous étudiez un peu la Bible, vous allez réaliser qu'il est question beaucoup d'images, d'ombres. Et c'est vrai qu'une bonne partie de l'Ancien Testament est en fait composée d'images, d'ombres, de préfiguration, de représentation de ce qui devait venir. Et Jésus est celui qui a incarné la transition entre image, ombre, etc. des choses, en accomplissant ces choses-là pour en révéler le sens profond et nous amener à la réalité de ces choses-là. Donc le culte, image et ombre des choses célestes qui a été pratiqué avant, allait maintenant laisser la place, parce qu'il nous est avantageux que Jésus soit parti, à la réalité des choses célestes, à un culte qui soit réel, qui soit vrai. Le culte image et ombre, vous voyez que les gens venaient en offrant un animal pour leur faute, ou bien en reconnaissance à Dieu, ou bien pour se présenter devant Dieu. Ça, c'était une image et une ombre. Mais la réalité, c'est Romains, chapitre 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Plus image et ombre, raisonnable, acceptable, conforme. Donc, il nous est avantageux que Christ soit parti parce que nous allions passer d'image et ombre à la réalité. Maintenant, donc vous voyez, il est dit avant, s'il était resté sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Je vous ai expliqué que les conditions de la loi n'auraient pas été remplies. Et que les sacrificateurs, etc., ne faisaient qu'un culte qui était image et ombre des choses célestes. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que maintenant, j'ai, dit Jésus, un ministère supérieur. Je suis devenu le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur de meilleures promesses. Waouh ! Combien il nous est avantageux que Jésus soit parti et nous ait laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient témoigner à nos cœurs de ce qui est vrai. Le Saint-Esprit qui vient nous enseigner. Le Saint-Esprit qui nous fait nous asseoir dans la vérité de notre alliance meilleure, plus excellente, de ses meilleures promesses que Christ a rendues possibles. Donc Christ est venu sur la terre pour que nous puissions être dans la présence même du Père. Christ est venu pour rétablir la vérité, pour rétablir la position que nous devions avoir avec lui auprès du Père. Mais il est aussi parti pour ouvrir la voie et rendre réel et juridiquement correct cet accès. Il nous est avantageux qu'il soit parti. Parce que l'Écriture nous dit, notamment dans Hébreux, vous pourrez aussi relire ces choses, mais qu'il est venu avec son propre sang à lui pour faire une fois pour toutes et éternellement l'expiation pour chacun de nous. Donc il fallait qu'il y aille, il fallait qu'il parte. Sinon il faudrait encore à chaque péché, à chaque erreur, à chaque faute que nous refassions encore de nouveaux sacrifices. Il nous est avantageux qu'il soit parti. Pour que nous passions d'un culte qui n'était qu'une ombre, qu'une image, à un culte qui soit une réalité. À une vraie expérience du Dieu de gloire et de cette gloire du Père révélée, libérée, manifeste. Pour que nous puissions être transformés. Comme le dit Jésus dans Jean chapitre 6, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie en lui-même. Manger ma chair et buvez mon sang, c'est tout un sujet aussi de réflexion. L'un des aspects du fait de manger la chair de Jésus, bien-aimé, c'est de croire à l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa chair. Et boire son sang, c'est vrai, c'est croire à l'œuvre accomplie et à l'expiation, au sacrifice par son sang qui a coulé et à l'alliance qui est inaugurée par son sang. Mais manger sa chair, croire en ce qu'il a accompli dans sa chair, c'est croire que, comme il est dit dans Hébreux 10:20 qu'on a vu tout à l'heure, par sa chair, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Nous mangeons sa chair quand nous empruntons cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Et nous buvons ce sang à chaque fois que nous acceptons, que nous réalisons et que nous croyons que par son sang, nous sommes sanctifiés, purifiés, acceptables, expiés pour toujours devant le Père. Donc par la chair et le sang de Jésus, nous avons la vie en nous-mêmes et nous pouvons entrer dans le sanctuaire, dans sa présence même. L'Écriture nous rend encore témoignage que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui et qu'il nous a aussi fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, réalisons tout ça. Et peut-être qu'il y a des choses où c'est juste des rappels ou des notions qu'on a déjà. Mais je ne veux plus que ce soit des notions. Je ne veux plus que ce soit une image et une ombre. Je veux que ce soit une réalité, une réalisation, une expérimentation pour chacun d'entre nous. Quand 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous, dont le visage découvert, le contemplons, sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, nous le confessons, nous le chantons, nous le croyons. » C'est excellent, mais que ce ne soit pas juste une notion pour chacun de nous, mais que cela devienne une réalité. Et que nous réalisions qu'il nous est si avantageux que Jésus nous ait laissé. Parce qu'en nous laissant, il nous a donné cette possibilité-là maintenant, de devenir semblable à lui. Waouh ! De nous tenir avec lui là où il se tient, d'être participant à sa nature divine, d'être réellement l'image de Christ sur la terre. Témoin, ce n'est pas juste celui qui parle de quelque chose, c'est un aspect, mais témoin, c'est celui en qui l'on voit ce qu'est l'original. Vous serez mes témoins, nous devons être réellement ce Christ sur terre. Et il nous est avantageux qu'il soit parti parce qu'ainsi nous avons pu avoir accès à être nous-mêmes comme Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, dit encore l'Écriture. Et une chose encore pour terminer juste cette réflexion, 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien soient conservés selon les versions irrépréhensibles. En fait, tout notre être, esprit, âme et corps, est supposé être irréprochable devant Dieu quand Christ reviendra. Est supposé être irrépréhensible. Est supposé être, comme le dit ailleurs l'Écriture, sans tache ni ride. En formant cette église glorieuse que Jésus vient chercher, tout notre être, Christ a été glorifié. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il a été glorifié, il est de nature céleste. Et toutes ces réalités-là, nous les recevons et nous les expérimentons dans notre esprit. Mais il n'y a pas que notre esprit qui est supposé être conservé ou trouvé irréprochable ou irrépréhensible ou exactement conforme. Comment Dieu veut-il trouver notre être bien-aimé ? Glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit dans cet état à l'avènement du Seigneur Jésus. Donc il nous a avantageux que Christ soit parti, parce que quand Christ est parti, il a pourvu au salut, à la régénération pour notre esprit, à travers, c'est vrai, la nouvelle naissance, par la foi à l'œuvre qu'il a accomplie, qui nous détache de la puissance des ténèbres et de la mort et du péché, et nous assoit dans le royaume de la lumière avec lui. Christ, en partant, a pourvu pour notre âme, parce qu'il nous a donné ce consolateur. On a besoin d'être consolé au niveau de nos sentiments ou de nos émotions, dans notre âme. Et l'Écriture témoigne de ce que certains ont appelé les sept esprits de Dieu. J'aime pas trop, ça fait un peu trop mystique pour moi. Mais l'Esprit de Dieu a sept facettes. Et dans ces facettes, il y a l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit de force et du discernement. Donc le Saint-Esprit est tout cela. Et Christ nous a donné le Saint-Esprit pour que, au niveau de notre âme qui est faite, notre âme est faite de quoi ? Intelligence ou intellect, émotion, volonté. Et si on regarde ces sept aspects, si on veut, du Saint-Esprit, eh bien il couvre nettement tout ce qui est nécessaire pour que notre âme, intellect, émotion, volonté, personnalité, soit pourvue, soit encadrée et devienne ce qu'elle doit être. Donc, il a pourvu pour notre esprit, pour notre âme, mais Christ aussi a pourvu et nous est avantageux qu'il soit parti, même pour notre corps. Vous allez dire, oui, mais Jésus guérissait les malades dans leur corps pendant qu'il était sur la terre. Mais nous avons plus que la guérison de notre corps, bien-aimé. Nous avons plus que la guérison de notre corps. Et le fait que Jésus soit parti inaugurer avec son corps, ou bien sa chair, pour reprendre exactement l'expression, une route nouvelle, un accès au Père, il a ouvert pour notre corps une route nouvelle et un accès au Père. Et il a ouvert pour notre corps cette possibilité et cette gloire d'être transformé en la même image. Ce n'est pas juste une question de notre esprit. Vous savez, votre esprit n'a plus besoin d'être transformé, sauf si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre esprit, il a été régénéré, c'est fait une fois pour toutes. Votre âme, c'est tout un travail, c'est vrai. Mais quand il est dit, nous le contemplons à visage découvert, pourquoi il nous parle du visage ? Le visage, c'est corps, c'est physique. Il ne dit pas, nous qui le contemplons, l'âme découverte, même si nous faisons mieux d'avoir notre âme clairement exposée devant lui pour qu'il puisse transformer notre âme. Mais notre esprit, lui, est transformé par ce que Tite appelle le bain de la régénération, cette nouvelle naissance. Ça, c'est l'œuvre puissante de Dieu quand nous repentons, nous venons à lui. Notre âme, elle est transformée, elle est renouvelée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous enseigner toutes choses, pour nous éduquer dans toutes ces voies, pour nous consoler quand il faut, etc. Mais notre corps aussi est supposé être transformé. Être transformé en se tenant dans la présence même de Dieu, face à face, comme dans un miroir, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et je livrerai juste à votre réflexion à Jésus, disait dans notre passage de départ, Jean 16, « Un peu de temps, vous ne me verrez plus, un peu de temps, vous me verrez de nouveau, parce que je vais au Père. » On peut certainement attribuer, comme beaucoup l'ont déjà fait, ces paroles au retour certain de Jésus. Mais ne pourrait-on pas y attribuer cette invitation et cette confirmation de Jésus qui dit « Vous ne me verrez plus, mais dans un peu de temps, vous me verrez de nouveau, parce que je vais au Père, et que là où je suis au Père, vous viendrez aussi. » Alléluia. Merci Seigneur. Donc surtout, surtout, plus de nostalgie. Il vous est avantageux que Jésus soit parti. plus d'attentisme seulement de son retour. Nous devons attendre son retour. Ah Seigneur, si seulement tu revenais. Oui, aspirons au retour de Jésus. Mais en attendant, vivons la réalité que nous devons vivre pour que lorsqu'il apparaîtra sur les nuées, comme dit l'Écriture, nous serons transformés comme en un clin d'œil. Nous revêtirons notre corps de gloire. Mais s'il vous plaît, que ce ne soit pas l'instant où nous découvrirons la gloire qui peut être manifeste dans notre corps, mais que ce soit juste le perfectionnement de quelque chose que nous aurons déjà commencé de vivre alors que nous nous serons tenus là où il est, auprès du Père. Nous vivons pleinement dans la dimension qu'il a ouverte pour nous et où nous avons notre place. Cessons l'ombre et l'image des choses à venir et vivons dans la réalité de ce qui est, avec celui qui est. Amen.